Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Une chronique. Le 28e chapitre. Et le titre de mon message ce soir est « La plus grande de toutes les requêtes ». Et si j'avais une question à vous poser ce soir, si vous aviez une seule requête à demander à Dieu, une seule fois, une seule chance, une seule rencontre avec Dieu, une seule prière, pas deux, vous n'auriez qu'une seule chance. On dit en anglais chez nous une expression « one bullet in the gun », une seule balle à tirer, une seule chance. Quelle serait votre requête? Quelle serait votre prière? J'en suis profondément convaincu, peut-être que vous essayeriez, quelqu'un qui est un peu plus vite dans sa tête va se dire « mais je vais tenter une requête qui englobe d'autres requêtes ». Comme ça, on va faire un tout, on va essayer, on dit chez nous un « package deal », on va essayer de faire un paquet et de dire « ben en proposant cette requête à Dieu, eh bien elle va englober d'autres requêtes ». Et ce soir, j'aimerais vous parler de la requête la plus importante. Une requête qui englobe toutes les requêtes. Une requête qui en foi, une requête de prière qui en soi est une quête. La première fois que j'ai vu Natacha, elle était une jeune fille de 16 ans qui avait joint notre groupe de jeunes. Et elle aimait bien le groupe de jeunes. Elle trouvait ça bien sympa. Elle aimait les jeunes. Elle avait découvert le groupe de jeunes, mais elle n'avait pas encore vraiment découvert Jésus. Elle avait découvert une bonne musique, mais elle n'avait pas encore vraiment découvert Jésus. Elle avait commencé à fréquenter les réunions du dimanche matin. Elle aimait les réunions, elle aimait les gens, elle aimait l'Église. Elle était tombée en amour avec l'Église, mais elle n'était pas encore vraiment tombée avec Jésus. Elle n'avait pas encore vraiment rencontré Jésus. Et Natacha avait beaucoup de carences, beaucoup de problèmes, de soucis dans sa vie. Elle était issue d'une famille dysfonctionnelle. Elle avait une relation très pénible et très difficile avec son papa qui avait été absent dans sa vie. Et elle avait ce grand vide en elle. Elle cherchait l'amour. Elle voulait l'amour. Elle voulait l'amour d'un homme dans sa vie. Elle était prête à faire n'importe quoi pour avoir un homme, pour se blottir au creux des bras d'un homme. Et elle avait commencé à développer un comportement un peu dangereux dans le groupe de jeunes et envers certains jeunes hommes. Et elle était franche, elle était prête à se donner à un jeune homme pour avoir l'amour en retour. Et j'ai dû à quelques reprises la faire venir dans mon bureau, lui dire « Écoute, c'est dangereux un peu comment tu te comportes avec les garçons, tu peux pas faire ça, ça se fait pas ici. » Elle était très franche avec moi. Et elle était transparente et même son raisonnement m'amenait à une confrontation avec elle. Elle me disait, « Pasteur, je crois en Dieu, mais Dieu, je ne le vois pas. Un homme, je vais le voir. Je crois que Jésus est là, mais mes yeux ne peuvent pas le voir. Je ne peux pas me blottir dans le creux des bras de Dieu comme je pourrais le faire dans les bras d'un homme. L'amour d'un homme que je cherche, c'est un amour humain, c'est un amour ce n'est pas le même amour que Dieu peut me donner. » Je me souviens, à plusieurs reprises, tentant de raisonner avec elle, tentant de lui expliquer de simplement mettre sa foi en Dieu, une telle simplicité. Et j'essaie de l'amener, de lui dire, vous connaissez bien ce verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume et toutes ces choses vous seront données. » Je me souviens, je lui parlais de chercher Dieu, d'avoir la quête de Dieu, d'aimer Dieu, d'avoir une telle simplicité qui même moi parfois c'est un peu désarmant parce que ça me demandait de la foi dans ma propre vie de lui prêcher cette recette. De lui dire, tu vois, si tu deviens une jeune fille qui cherche Dieu, qui aime Dieu, et Jésus lui-même n'a-t-il pas dit qu'on n'avait pas besoin de se soucier de tous les besoins qu'on avait sur cette terre, mais il nous invite à chercher d'abord le royaume de Dieu. Vous savez avec moi que Jésus est le royaume de Dieu. Amen. Jésus est le royaume de Dieu. Et je la voyais, elle doutait. Elle dit, non, pasteur, c'est pas pour moi. Et elle a commencé à s'éloigner de Dieu. Elle a commencé à s'éloigner du groupe de jeunes et de l'Église. Et 3 ans plus tard, un jour, alors qu'on préparait une convention à laquelle votre pasteur est venu, mon épouse, elle travaillait à préparer la convention et elle avait été faire des courses pour l'église. Et elle était dans un magasin un peu comme Leclerc, mais qu'on appelle chez nous Walmart. Et elle était là et elle attrapait toutes sortes de trucs sur les étalages et elle mettait ça dans son caddie. Et alors qu'elle prend un objet dans l'étalage, ça a fait un petit trou parce qu'elle a pris un objet, elle a vu de l'autre côté quelqu'un qui a pris aussi un objet de l'autre côté sur l'étalage. Et les deux en même temps ont pris un objet et les deux se sont vus. Et Justine a vu à travers le trou Natacha qui s'était éloignée de Dieu. Et quand Justine a vu Natacha à travers le trou, elle s'est dit, « Ah, c'est Natacha! » Parce qu'on priait pour elle, on espérait qu'elle revienne à Dieu. Et elle s'est dit, « Ah, c'est Natacha! » Mais Natacha a vu Justine et s'est dit, « Oh, c'est Justine! » Parce que voyez-vous, quand les gens s'éloignent de Dieu, souvent ils se sentent mal. Ils croient que les chrétiens vont les condamner, que les chrétiens vont les accuser. Alors, elle s'est dit, « Oh, c'est Justine! » Alors, elle a commencé à se cacher dans le magasin avec son caddie, et aller dans les rangées et regarder où était Justine. Mais Justine s'est mise en tête de la poursuivre et de la retrouver pour la rencontrer. Alors, il y a un peu comme une course de caddie qui s'est, imaginez-vous un grand magasin comme Leclerc. Il y a une course de caddie qui s'est entamée dans cette espèce de Walmart qui est un peu comme un labyrinthe. Mais voyez-vous, on peut pas se sauver de mon épouse comme ça. C'est une ancienne pilote de Formule 1. Elle a gagné le Grand Prix à Monaco. Alors, elle a commencé à anticiper où allait Natacha. Et elle est venue de l'autre côté. Et les deux, tout à coup, ont heurté leur caddie. Et les deux se sont dit, « Ah, mais quelle surprise! Bonjour! Ah, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu! » Et mon épouse a vu que Natacha, en fait, cachait son ventre. Un peu sous le caddie. Il y avait plein de trucs dedans. Elle cachait son ventre. Elle a dit, « Mais qu'est-ce que tu caches? » Natacha lui a montré qu'elle avait un ventre, qu'elle était enceinte de 7 mois, parce qu'elle avait été la maîtresse d'un homme marié pendant plus d'une année, un homme qui aurait pu même être son père, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, et maintenant elle était enceinte de lui. L'homme l'avait complètement abandonnée. Elle était retournée chez sa maman, elle avait 19 ans, elle était une jeune fille mère, et elle avait bousillé toute sa vie. Elle s'est retrouvée dans mon bureau, dans une rue sans issue, et elle avait tellement détruit sa vie. Elle pleurait dans mon bureau et elle me disait, « Pasteur, j'ai ruiné ma vie, j'ai ruiné mon futur, j'aurais pu avoir des études. » Et elle disait maintenant, « Je suis sur l'assistante sociale, je suis à la maison avec ma maman, je suis enceinte, je vais accoucher. » Et elle avait des soucis et constamment dans mes rencontres avec elle, il y avait une telle simplicité dans l'évangile que je lui partageais que même moi, par certains moments, je me disais, il faut que ça marche. Il faut que l'évangile marche dans sa vie parce qu'elle a vraiment des besoins concrets. Et constamment, avec une telle simplicité, je lui disais toujours, Natacha, cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche le royaume. Oui, mais pasteur, vous comprenez pas. Cherche d'abord. Oui, mais j'ai des besoins concrets, j'ai des besoins palpables, j'ai des besoins terrestres. Oui, mais cherche d'abord le royaume de Dieu. C'est rien pour Dieu. C'est pour Jésus, c'est en cliquant des doigts, il peut répondre à tes besoins. Et un jour, elle m'appelle, et parfois elle m'appelait, elle avait des moments de panique, et elle venait au bureau, et maintenant elle avait sa petite fille, et un jour elle vient me voir, et elle pleurait dans le bureau. Et je lui dis, qu'est-ce qui va pas, Natacha? Et elle me dit, pasteur, j'ai pensé à ça cette semaine. Il n'y a pas personne qui va vouloir d'une fille comme moi à l'église. Tous les garçons, ils sont tous 3 fois saints. Ils voudront pas d'une fille pécheresse comme moi. Moi, je savais pas que les gars étaient 3 fois saints à l'église. Alors, je dis, Natacha, bon, ils sont pas 3 fois saints. Mais ils voudront pas d'une fille comme moi. Je suis une fille mère et j'ai un enfant. Ils veulent tous marier des bonnes jeunes filles qui sont saintes et qui ont grandi dans l'église. Et je me souviens lui avoir dit constamment, Natacha, essayant toujours de la ramener vers la simplicité de l'évangile, vers cette vie de foi qui nous invite à chercher Dieu premièrement dans nos propres vies. Et que lui peut et veut répondre. Et il nous aime beaucoup plus que nous, on peut l'aimer. Et il désire répondre à nos besoins beaucoup plus que nous, on désire lui présenter nos requêtes. Et lorsqu'on s'est préparé pour venir ici, en France, on a fait venir un grand conteneur. Et on a vendu notre maison et on a dû entreposer tous nos biens, tous nos meubles qu'on a amenés ici. Et on en a laissé beaucoup, mais on a mis ce qui restait dans un conteneur. Et alors qu'on a tout mis dans le conteneur, on a fermé les portes, on a mis un seau. Et ça a été chargé sur un bateau, un paquebot qui est venu jusqu'ici. Et à la fin, je me suis retourné pour aider les jeunes qui étaient venus m'aider à remplir le conteneur. Et il y avait Natacha. Parce que c'est chez elle qu'on avait entreposé tous nos meubles dans le sous-sol de sa maison. Elle était là sur la rue avec son mari, ses 3 enfants, sa belle petite maison, son beau monospace. Et je la regardais et je me disais, et elle nous a remis un livre. Un livre qu'elle a bricolé elle-même et elle a mis toutes les photos du début quand on a appris à se connaître jusqu'à aujourd'hui, le jour de son mariage où elle est tombée dans les escaliers parce que son papa avait les 2 pieds sur sa robe de mariée et en montant sur l'estrade, elle s'est écroulée et elle riait et c'était des gens bien simples et c'est moi qui ai célébré leur mariage et tous ces souvenirs me revenaient. Comment petit à petit, pas en une seule soirée, pas un éclair qui est tombé, qui a réglé tous ses problèmes, mais petit à petit, le Seigneur a construit sa vie, a rebâti sa vie. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'une requête qui a été déposée dans son cœur à elle et qui est encore dans son cœur aujourd'hui. J'aimerais vous parler de la requête qui englobe toutes les requêtes. J'aimerais vous parler d'une requête de prière qui, en fait, si vous commencez à élever ou recommencez à élever cette requête vers Dieu, vous allez rapidement découvrir qu'en fait, c'est plus une requête, c'est une quête, la quête de Dieu. On n'a pas beaucoup de temps ce soir, c'est une réunion de semaine, je veux pas être long. Mais j'aimerais vous amener lire un texte très important, un texte qui a été peu lu, peu étudié, peu connu, mais un des textes les plus importants de tout l'Ancien Testament. 1 Chronique, le 28e chapitre, c'est la fin de la vie du roi David. C'est l'instigation, l'inauguration du nouveau roi, son fils Salomon, maintenant qui va s'asseoir sur le trône royal et la couronne va être déposée sur sa tête. Et David va prononcer ce qu'on appelle chez nous au Canada, parce qu'on a encore un certain lien avec la reine d'Angleterre, ce qu'on appelle chez nous au Canada le discours du trône. Et le roi, le vieux roi très âgé, David, va se lever, donner sa couronne à Salomon et il va prononcer un discours. Et voyez-vous, mon cœur est touché lorsque je lis, lorsque je relis et lorsque je médite sur la simplicité du discours du roi David. Le roi David qui a été le plus grand roi d'Israël. De tout ce qu'il aurait pu parler, de tous les sujets qu'il aurait pu adresser à son fils, de tous les conseils qu'il aurait pu donner à son fils. Croyez-moi ce soir, croyez-moi, si vous aviez l'opportunité, la chance de vous asseoir une heure avec le roi David pour écouter ses conseils pour votre vie, je crois que vous seriez tout oreille. Je crois que vous auriez un crayon à la main et un bout de papier et vous seriez en train d'écrire des notes et de méditer sur qu'est-ce qu'il vous dit. Et là, dans cette grande assemblée avec à peu près 400 hommes qui sont tous les chefs, les dignitaires, les ministres d'Israël, les chefs militaires, les politiciens de l'époque qui sont là dans cette grande assemblée royale de la plus haute importance, de tous les conseils que David aurait pu donner à Salomon, il a choisi de ne pas parler d'économie, de politique, de stratégie militaire, de sagesse, de ceci ou de cela. Et en fait, durant son discours, il va parler de différentes choses. Puis il va se tourner vers son fils. Et là, il va lui donner un secret. Mais croyez-moi ce soir, il va lui confier le secret de sa vie. Le secret de la vie de David, à la fin de sa vie, il va se tourner vers son fils. Il va lui confier ce qu'il y a de plus précieux dans la vie chrétienne. Et lisez-le avec moi ce soir, il va dire ceci. « Et toi, mon fils Salomon, regardez bien. Connais le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur intègre et d'une âme empressée. Car le Seigneur sonde tous les cœurs et discerne toute forme de pensée. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Et puis le roi David va se lever. Il va tendre les mains vers l'assemblée. Et il va prier pour toute l'assemblée. Il va regarder ses chefs d'État, ses ministres, ses responsables, de ces hommes qui ont de grandes responsabilités. La Bible les appelle les princes d'Israël. Ces génies politiques et militaires. Et David va regarder tous ces hommes. Il va prier. Et on aurait pu croire qu'il aurait pu prier toutes sortes de choses. Seigneur, donne-leur de la force. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur de la sagesse. Donne-leur de la sainteté. Et toutes ces choses sont tellement importantes. Mais David va prier une requête qui englobe toutes les requêtes. Regardez avec moi, je le lis pour vous. Vous pourrez le regarder à la maison, c'est le chapitre suivant. Le chapitre 19, 29, le verset 18 nous dit ceci. David va prier, il va dire, « Garde pour toujours les dispositions du cœur de ton peuple et dirige fermement son cœur vers toi. » Puis il va prier pour son fils devant tout le monde. Il va dire, « À mon fils Salomon, donne un cœur. » Regardez-moi ici un instant ce soir. David tend les mains et il prie pour le peuple. Il va dire, dirige, pas seulement dirige son cœur vers toi, Parce que la Bible sait que le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout ça. La grâce de Dieu, nos cœurs divergent dans toutes sortes de directions, toutes sortes de quêtes, même en tant que chrétien. Mais la chose la plus importante est celle-ci. David a prié, il a dit, « Dirige fermement son cœur vers toi. » Savez-vous ce qui touche mon cœur ce soir? C'est qu'il a terminé sa vie comme il l'a commencé. Il a terminé en parlant de l'importance d'avoir un cœur vers Dieu, un cœur fermement fixé vers Dieu. Mais vous vous souvenez que David a débuté sa vie en étant connu comme étant un jeune homme qui avait un cœur selon le cœur de Dieu. Il a fait des erreurs. Oui, il a tombé. Mais croyez-moi ce soir, il a terminé comme il a commencé. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes chrétien. Je ne sais pas depuis combien d'années, combien de jours ou de mois. Je ne sais pas si vous êtes ici ce soir et que peut-être vous êtes loin de Dieu, que vous êtes éloigné de Dieu. Mais je sais une chose. Il existe une vie supérieure. Je ne parle pas d'orgueil, mais je parle de spirituellement supérieure à ce que nous connaissons la plupart d'entre nous. Il existe une vie qui est fixée vers Dieu. Un cœur qui est fermement fixé vers Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons le cœur fixé sur nos besoins, nos défis. Moi, le premier, parfois dans le ministère, mon cœur est fixé vers mes défis du ministère. Mais David était au-delà de ces choses. Son cœur était fixé vers Dieu. Voyez-vous, moi, j'ai grandi dans l'Église. Et depuis mon enfance, je connaissais ce texte qui dit que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et pendant toute ma vie, régulièrement, à chaque année, je retournais à ce verset. Et je priais le Seigneur, même dans mon adolescence. « Oh Seigneur, j'aimerais tellement avoir un cœur selon ton cœur. » Et voyez-vous, je n'ai jamais eu le sentiment que j'étais parvenu à avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Parce que le mot « selon », ici, c'est être au diapason, être vraiment comme deux cordes de guitare qui sonnent à la même note. Mon cœur et le cœur de Dieu, on sonne à la même note, on est au même diapason. Je n'ai jamais eu ce sentiment. Et j'ai commencé à voir un peu David comme un élite, quelqu'un qui avait reçu un don, quelqu'un qui n'était pas du commun des mortels comme nous. Jusqu'au jour, au printemps dernier, ou dans un temps de prière à la maison, j'ai commencé à lire cette histoire et à tout simplement reprier cette même requête comme à chaque année. Seigneur, donne-moi un cœur selon ton cœur. Et cette fois-ci, j'ai lu en anglais, dans la King James. Combien d'entre vous comprenez l'anglais ce soir? Levez la main. Quelques personnes. Et là, j'ai lu en anglais, en fait, c'était pas la même traduction que nous. En français, c'est un cœur selon ton cœur. Je me suis trouvé un jeune homme selon mon cœur. Mais en anglais, je me suis trouvé un homme after my own heart, qui veut dire un homme après mon cœur. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont crié après les Anglais? Ils savent pas comment traduire la Bible. Il va falloir leur montrer. Non, non, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est pas un homme après le cœur de Dieu. Ça se dit même pas bien en français, un homme après le cœur de Dieu. Alors là, je me suis dit, il va falloir trancher. Est-ce que c'est les Anglais ou les Français qui ont raison? J'ai commencé à lire plusieurs traductions en anglais. Et toutes les traductions, pour la plupart, traduisaient « after », « après ». Là, je suis allé voir différentes traductions. Toutes les traductions en français disaient « selon ». J'ai dit, il va falloir trancher, on va aller voir l'hébreu. Alors là, je suis allé voir dans l'hébreu. Et en hébreu, en fait, j'ai découvert que c'est les Anglais qui ont raison. Et que nous, on a tort. Le vrai mot... C'est certain qu'un cœur selon le cœur de Dieu, on peut le traduire ici en français. Mais la traduction la plus près de l'hébreu, la plus juste, c'est un homme après mon cœur. Je me suis trouvé un homme après mon cœur. Ça change toute la signification. Voyez-vous, nous on utilise l'expression Québec, je sais pas si on le dit ici, mais on va dire, disons une mouche tourne autour de ma tête, on va dire, ah, cette mouche elle est toujours après moi. Ou un petit enfant qui est toujours près de sa mère et sa mère elle fait la cuisine et prépare le souper. Et le petit enfant il est là maman il dit ah t'es dans mes jambes t'es toujours après moi. Je sais pas si on dit ça en France un peu cette expression t'es toujours après moi. Et j'ai commencé à comprendre la signification de ce terme. Voyez-vous, Anthony tu vas venir m'aider. Je te surprends là. Et c'est comme si disons Anthony tu vas je vais te donner une grande responsabilité ce soir. Tu vas monter sur l'estrade juste ici et tu vas te tenir devant la foule. On va dire que tu es Dieu. Bon, il n'est pas Dieu, on s'entend. Mais on va dire qu'il est Dieu. On va dire Dieu n'a pas de jeans. Denain Laboratory. Oh, peu importe. Et c'est comme si Anthony était Dieu. C'est comme si on avait Dieu ici. C'est qu'une image, on s'entend ce soir. Et que là, avec ses mains, il doit s'occuper de la terre. Alors, il y a la terre qui est devant toi, et tu dois agir sur la terre. Alors, il y a la guerre en Irak, tu mets une main en Irak, il y a l'Afghanistan, faut pas oublier les conflits en Afghanistan et tout, bon. Et puis, tout à coup, tu vois la France, et Dieu voit la France. Ouf! Il faut aider la France, allez. On met une main. Oh, les deux mains sur la France, ça va mal en France. Il faut sauver la France, alléluia. Ah, il y a une bonne église à Limoges, on va la bénir, l'église à Limoges. Et Dieu se retourne, et il voit un jeune homme qui est là. Qui s'intéresse à lui. Et Dieu s'est dit, mais quelle surprise. Il n'est pas en train de me demander toute une liste de requêtes. Il ne me prend pas pour le Père Noël. Il n'est pas comme quelqu'un qui passe à la caisse chez Leclerc et qui dit, j'ai besoin de ceci, Seigneur, je te prie pour ceci, je te prie pour cela. Dieu se retourne et voit quelque chose de différent dans ce jeune homme. Il voit qu'en fait, ce jeune homme s'intéresse à lui. Il est après lui. Il regarde ce que Dieu fait. Il s'intéresse à ce que Dieu fait. Il veut rentrer dans ce que Dieu fait. Mais Dieu n'a pas beaucoup de temps. On s'entend, ce soir, on fait un peu de sarcasme. Dieu continue à s'occuper du monde. Et un jour, il entend un jeune homme, quelque part, perdu dans les champs, et qui chante un chant. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Vous connaissez ce chant? Non? J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Et puis Dieu, c'est incroyable. Alors Dieu regarde la vie de ce jeune homme. Il regarde que ce jeune homme, il a une situation familiale très difficile. En fait, même David écrira plus tard, il dira littéralement dans l'hébreu, « Mon père et ma mère m'ont abandonné, mais toi, Seigneur, tu m'as recueilli. » Et il voit que ce jeune homme, on sait très peu sur la vie de familiale de David, j'ai pas le temps ce soir. Mais on sait une chose, c'est que, il faut pas que tu détournes l'attention. On sait une chose, c'est que David avait une situation familiale difficile. Et Dieu se dit, sa vie n'est, tous les besoins de sa vie sont pas réglés. Il a des problèmes. Mais il m'aime quand même. Et même si je ne réponds pas à toutes ses requêtes, il m'aime quand même. Et puis un jour, Dieu entend ce jeune homme qui est en train d'écrire un chant. Et le jeune homme, il écrit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, merci. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Vous connaissez. Et vous savez ce que Dieu se dit? Il est toujours après moi, ce jeune homme. Et un jour, David a besoin de Dieu. Un jour, David voit un lion qui vient voler sa brebis. Et il se lève. Et il se dit, il y a, voyez-vous, plus on passe de temps avec Dieu, plus on pense comme Dieu. Et alors que David passe des moments avec Dieu et qu'il loue le Seigneur met des choses dans son cœur. Le Seigneur met des choses dans sa vie. Et un jour, le lion vient voler la brebis. Et David se lève. Il se surprend lui-même. Mais qu'est-ce que je fais là? Il y a quelque chose qui le pousse à l'intérieur. Vas-y. Ne la laisse pas partir. Je serai avec toi. Et David se met à courir. Ce soir, pour nous, c'est facile de se dire, raconter cette histoire que David a couru derrière le lion, qu'il a tué le lion. Mais imaginez ce soir si j'ouvrais la porte qui est là, et je vous disais, j'ai amené un lion ici ce soir. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, je vais lâcher ce fauve librement dans la salle ce soir. On va voir si vous aurez le courage de Daniel. Ce sera toute une surprise, hein? Voyez-vous, au printemps, j'ai des amis à New York qui nous ont emmené toute la famille dans un zoo. Et on a compris plus tard pourquoi il y avait très très peu de gens qui visitaient ce zoo. Parce qu'on était devant une clôture, il y avait comme un bœuf africain qui avait encorné la clôture. Et il était en train de renverser la clôture dans le zoo. Et là, j'ai vu que c'était un zoo qui n'était pas très sécuritaire et j'ai vu que c'était de toutes petites broches attachées après de tout petits poteaux de fer et c'était vraiment pas sécuritaire. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce zoo. Et là, je me suis retourné et j'ai vu qu'il y avait personne dans le zoo, il y avait que nous qui le visitaient. Et là, mes enfants, ils marchent. J'ai une petite fille de 5 ans, une petite fille de 8 ans et elles reviennent en courant. « Papa, papa, viens voir les lions !» Alors, on se met à marcher. Et mes filles, en fait, elle tenait la clôture comme ça avec leurs petits doigts. C'est une toute petite clôture. Et il y avait le lion qui était couché là, par terre. Il faisait chaud, le lion. Il se reposait sur le dos comme ça. Il me regarde. « Chut, papa, il fait dodo. Viens. » Alors moi, je m'approche et je me dis, « Quel fauve. Oh, c'est pas cat était grosse comme ça, sa tête et tout. Et en m'approchant tout doucement, en marchant sur la pelouse, j'ai écrasé une petite branche. Et ça fait un petit bruit, ça fait un petit crack. Je n'ai jamais vu le lion bouger. Mais j'ai fait une chose, instantanément, il était sur ses pattes. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et quand il m'a regardé, tout le sang de mon corps s'est écoulé dans mes pieds. Et je me suis senti tellement faible. Et j'ai pris mes filles, j'ai dit, « Chut, dodo, le lion. » Et on est parti tout doucement. Et j'ai pas pu m'empêcher, on marchait, j'ai pas pu m'empêcher de penser à David. Et de me dire, c'est incroyable, c'est surhumain que David se soit levé debout, qu'il ait couru plus vite que le lion parce qu'il l'a rattrapé. Et David dit, j'arrachais la brebis de sa gueule. C'est un miracle incroyable. Il dit, et s'il se retournait contre moi, je le saisissais par la gueule et je le tuais. Imaginez ce soir. Laissez-moi vous dire une chose. Parce que David était après Dieu quand Dieu avait besoin de lui. Parce que David avait cette amitié avec Dieu. Parce que la plus grande des requêtes de la vie de David, vous verrez, sur les 74 psaumes que David a écrits dans la Bible, qui sont sous son nom, sur les 74 psaumes, régulièrement, David mentionne son amour pour Dieu. Non seulement son amour pour le corps de Christ, ou pour le ministère, ou pour ses frères et sœurs, ou pour les âmes perdues, ou peu importe, pour les bénédictions de Dieu. Bien au-delà, David mentionne son amour. Elle est continuelle. Elle est dans ses écrits, dans ses psaumes. Elle revient, cet amour pour la personne de Dieu. Imaginez-le ce soir. Pensez à la simple pensée que David écrivait des poèmes à Dieu. C'est des trucs d'ado. Des jeunes filles mélancoliques qui écrivent à leurs gars, à leurs amoureux, à leurs prétendants. David était un roi. Il était un homme de guerre. Il était un chef d'État. Il écrivait des chansons d'amour à Dieu. Quelle pensée! Il était un amoureux de Dieu. Et parce qu'il aimait Dieu, parce que la plus grande requête de sa vie était de le connaître, de s'approcher de lui. Il était toujours après Dieu, même s'il a fait des erreurs. Il a dit, le jour où il est tombé, qu'est-ce qu'il a dit? « Oh Dieu, crée en moi un cœur! » Il le savait, David. Tout est une question de cœur entre moi et Dieu. Laissez-moi vous dire, parce qu'il était là pour Dieu quand Dieu avait besoin de lui, Dieu était là pour lui quand lui, il avait besoin de Dieu. Chaque personne qui est ici ce soir, vous avez un lion. Nous avons tous des lions dans notre vie. Nous avons tous parfois une mauvaise nouvelle qui arrive, quelque chose qui surgit. Nous avons parfois un lion rugissant qui veut venir voler nos enfants et les éloigner de Dieu. Un lion rugissant qui arrive et que tout à coup, nous annonce une mauvaise nouvelle. Parfois, la maladie frappe dans notre famille. 2 semaines, 14 jours avant de venir ici. 14 jours avant notre départ, le lion a frappé mon couple. Alors que ma femme est sortie du cabinet de médecin et qu'elle a dit, Christian, j'ai un cancer. J'ai un cancer. Et chez nous, le système de la santé, il est dans un état lamentable. Et la majorité, et tous les gens qui attendaient pour une opération comme mon épouse devaient attendre à peu près 6 à 8 mois. Et nous, on s'en venait en France. Et en France, on n'a toujours aucune couverture médicale pour nous. Mais il y a dans notre vie un désir, au-dessus de toutes nos requêtes, d'être là pour Dieu et de l'aimer. Et je vous le dis ce soir de façon humble et bien, bien, bien imparfaite, mais c'est ma quête d'être après Dieu. Et en l'espace de 5 jours, mon épouse a eu sa rencontre avec le médecin. Elle a été opérée instantanément. Et alors qu'elle attendait son opération dans la salle d'attente, une dame pleurait au comptoir, à la réception, à la clinique, parce qu'elle devait attendre jusqu'en novembre pour se faire opérer pour son cancer. Et mon épouse est passée devant tout le monde en 6 jours. Elle n'a rien demandé. Croyez-moi, quand le lion frappe, alors que nous avons un cœur vers lui, nous entrons dans une vie où Dieu se lève pour nous quand on a besoin de lui. Je termine ce soir, je vois qu'il est déjà 21h, mais je termine avec cette pensée. David, et je rétrécis mon message, mais David s'est tourné vers son fils avec une grande sincérité. Il a dit, « Aie un cœur pour Dieu. » Cherche Dieu. Il a prié pour son fils qu'il ait un cœur fermement fixé vers Dieu. Savez-vous pourquoi David a prié ça pour son fils? Il a vu quelque chose dans son cœur. Je suis profondément convaincu. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est ma conviction. David a vu dans son fils tout le souci de prendre, de chausser les chaussures du roi, d'entrer dans les chaussures de son père. Je suis profondément convaincu que Salomon se disait, comment vais-je y arriver? David, le roi David, moi je dois prendre sa place, mais j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et en plus, c'est à moi de construire cet immense temple à Jérusalem. Et je peux imaginer le vieux roi se tourner vers son jeune fils et lui dire, « Aie un cœur vers Dieu. Ne néglige pas la prière, Salomon. Même si les ministres entrent dans ton bureau et que le téléphone sonne 300 fois par jour et tes 14 secrétaires sont toujours après toi et que tu as 3000 emails à l'heure, Salomon, sois un homme qui cherche Dieu et Dieu va faciliter ta vie et ton travail. » Et je peux imaginer Salomon se dire, j'y arriverai pas. Je suis pas comme mon père. J'ai pas ce cœur vers Dieu comme mon père. Et on tourne la page dans la Bible. C'est la nuit. Dieu apparaît à Salomon et il lui offre ce que je vous ai offert au début du message. Il lui dit, demande-moi une chose et je te la donnerai. Ce soir, c'est ma conviction. Je ne vous l'impose pas. Je ne veux pas que vous veniez discuter avec moi après. Mais je crois que Salomon n'a pas demandé la meilleure requête. Je crois qu'il a demandé quelque chose de bien. Vous savez qu'il a demandé la sagesse. Mais si vous lisez comme il faut les Écritures, il a dit, donne-moi la sagesse pour diriger le peuple. Toutes ses pensées à Salomon étaient horizontales. Elles n'étaient pas verticales vers Dieu, elles étaient horizontales. Donne-moi la sagesse pour diriger le peuple. Je crois qu'il y a un silence divin dans cette histoire. Dieu lui a dit, tu as demandé une bonne chose et Dieu lui a accordé. Mais lorsqu'on regarde toute la cérémonie et les entretiens avec son père qui ont précédé, il est toujours mention de cœur, un cœur vers Dieu, un cœur pour Dieu, un cœur qui cherche Dieu. Savez-vous quoi? Je suis profondément convaincu que Salomon se dit, je n'ai pas un cœur comme mon père. Et que dans sa grâce, Dieu s'est approché de Salomon et qu'il lui a offert. Et que Dieu avait en tête, demande-moi un cœur comme ton père, demande-moi un cœur après moi et je vais te le donner. J'ai terminé ce soir, mais j'aimerais vous dire, il y a deux choses qui nous empêchent, seulement deux choses dans la vie chrétienne, qui empêchent des hommes et des femmes d'entrer pleinement dans ce que Dieu a pour eux. Premièrement, l'incrédulité. Je crois que Salomon n'a pas cru à la simplicité de ce que son père lui a offert. Et vous savez, sa vie a dégringolé. La Bible dit que Salomon a fait entrer en Israël des idoles qui demandaient même, il a fait entrer des Baals. Salomon a fait entrer des divinités qui demandaient la prostitution, qui demandaient des sacrifices humains. Salomon! Savez-vous combien de femmes avait Salomon? Il avait 700 femmes et 300 concubines. Mais pourquoi? Pensez un instant ce soir, j'ai terminé. Pensez un instant ce soir. J'ai invité le frère à s'approcher à la guitare. Pourquoi il a eu 1000 femmes? Il l'a dit dans Ecclésiaste. Il a dit seulement, entre toutes ces 1000, je n'en ai trouvé aucune. Je crois qu'il cherchait, et il n'a pas trouvé. Il a cherché l'amour, il ne l'a pas trouvé. Vous savez que la Bible dit que les gens venaient de l'autre bout de la terre pour venir écouter sa sagesse. Et Salomon a dit dans Ecclésiaste, le 7e chapitre, il a dit, toute ma vie, j'ai cherché la sagesse et je ne l'ai pas trouvée. Et l'apôtre Paul a dit, nous prêchons la sagesse de Dieu qu'ils ont crucifiée. C'est Jésus la sagesse de Dieu. C'est une personne la sagesse de Dieu. Mais c'était trop simple pour Salomon. Trop simple. Il avait de grands problèmes. Il avait une vie compliquée. Il cherchait une solution compliquée. Croyez-moi ce soir, la solution à tous nos besoins, hallelujah, c'est la quête de Jésus-Christ. Cherchez, je suis venu vous prêcher un évangile que les enfants ont souvent saisi plus que nous. Cherchez d'abord le royaume toutes ces choses vous seront données. J'aimerais vous dire ceci ce soir. Vous voulez vous rendre par là? Eh bien, courez par là. Vous avez des problèmes très concrets et très tangibles qui ont besoin d'être répondus? Mettez-les de côté. Venez au pied de la croix. Faites connaître tous vos besoins, comme la Bible dit. Mais une fois que vous les avez fait connaître, cherchez sa face. N'ayez pas une vie de prière où vous venez vers Dieu comme on vient vers un Père Noël. Où vous venez vers Dieu, passez votre commande comme les gens vont chez Leclerc, ils passent toutes leurs requêtes à la caisse. J'aimerais vous dire le secret de la vie. La requête qui englobe toutes les requêtes. La quête de Dieu. Un homme et une femme qui cherchent la face de Dieu verra Dieu se lever pour lui, se lever pour elle. Un jour, un homme de Dieu qui a beaucoup inspiré ma vie a dit ceci. Il a dit un soir, il était en prière, un pasteur d'une grande église. Et il priait Dieu pour toutes les requêtes de prière de son église. Et il priait Dieu pour les finances et les âmes et toutes sortes de choses. Il dit, le Seigneur s'est approché de moi d'une façon unique ce soir-là dans la prière. Et le Seigneur m'a dit, je mets une croisée de chemin devant toi aujourd'hui. Tu vas chercher ma main ou ma face. Et Dieu lui a dit, si tu cherches ma main, tu n'auras pas ma face. Mais si tu cherches ma face, tu auras ma main aussi. Je crois que la requête de prière qui englobe toutes les requêtes, c'est lorsqu'on se met à chercher sa face. C'est lorsqu'on vient devant lui et qu'on a beaucoup de requêtes, beaucoup de besoins, mais qu'on lui dit, je veux te connaître. Je veux t'aimer. Tu es la solution. La solution à tous mes problèmes, c'est une personne. Et je veux me rapprocher de lui. Je veux qu'il s'approche de moi. Je veux l'aimer, je veux le chanter. Je sais que tout le reste, c'est secondaire.